I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, le podcast dédié au marketing digital. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je me suis découvert une passion pour le podcasting, l'emailing, les différentes stratégies de visibilité et j'en passe. À travers mes épisodes, je vous partage les éléments dont vous aurez besoin pour non seulement développer votre activité, mais aussi et surtout construire la vie de vos rêves. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. L'un des avantages dans le fait d'être entrepreneur et de travailler à son compte, c'est que forcément, on peut le faire de n'importe où dans le monde. C'est le cas de nos invités du jour, Jeanne et Ludovic de Nomad Path. J'espère que mon accent anglais est correct. Dans cet épisode, ils vont nous parler de leur expérience. Je dois avouer que le digital nomadisme est un sujet qui n'a jamais été abordé sur Build Yourself puisque je suis une personne très casanière. Mais pour autant, je trouve que c'est un mode de vie qui est très très cool et dont il ne faut absolument pas se priver si on en a envie. Donc dans cet épisode, eh bien, on discute de ce que c'est le digital nomadisme et surtout comment eux se sont décidés à vivre de cette manière. On aborde également les challenges de ce mode de vie, ainsi que les aspects positifs, bien sûr, les premières étapes pour se lancer. Je me suis vraiment demandé s'il y avait des prérequis pour devenir digital nomade, donc il nous apporte la réponse dans cet épisode. Et enfin, j'ai aussi gratté quelques recommandations de pays ou de villes par lesquelles commencer pour celles et ceux parmi vous qui ont envie de tenter l'expérience sans non plus partir complètement à l'aventure. Donc maintenant que cette petite introduction et présentation est effectuée, je vous laisse écouter notre conversation. Bonne écoute! Salut Jeanne, salut Ludo, comment allez-vous?
Salut, super bien,
et toi?
Mais très bien, je me suis permise de dire Ludo, mais bon...
Il y a le Ludo facile, donc...
Oui,
en même temps, on dirait Ludovic, je ne sais pas si les gens sauraient qui c'est.
Bon bah écoute, c'est parfait. Écoutez, je suis ravie de vous avoir sur le podcast, puisque comme je vous disais avant qu'on lance l'enregistrement, le digital nomadisme n'est pas une thématique que j'ai déjà abordée sur ce podcast, alors que je sais, et dans mes statistiques, il y a des gens un peu partout dans le monde qui écoutent les épisodes. Donc c'est génial de vous avoir ici avec moi. Alors vous êtes digital nomade depuis 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le digital nomadisme? Parce que je suis persuadée qu'avec les anglicismes, il y en a toujours dans mon audience qui ont des difficultés.
Vas-y.
Ah, c'est moi qui commence. Ok. Alors nous, on le définit comme travailler en ligne tout en voyageant, pour que ce soit assez simple.
Ouais, je pense que c'est la bonne définition. Peut-être donner un petit peu plus de détails. Souvent, les gens associent ça au fait d'être... indépendant. On peut tout à fait avoir des salariés qui vont être typiquement en remote qui peut faire ça. Donc, c'est plus lié au mode de travail que à la structure, pas d'entreprise, mais comment tu définis ton travail. C'est plus ça.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de sauter le pas et d'avoir ce style de vie?
Du coup, nous, on était salariés tous les deux à Paris à l'époque, justement avant 2019. Et on a commencé à ressentir pas mal de frustration parce qu'on aimait beaucoup voyager. Et être cantonné seulement à 5 semaines de vacances, ça nous frustrait énormément.
Ouais.
Et une fois, c'était peut-être la fois de trop, on était en Asie. C'était la première fois d'ailleurs qu'on était en Asie, au Sri Lanka pour être très précis. Et au moment où on commence à avoir le bad de rentrée en se disant, bah, ça y est, les 2 semaines sont terminées et on va revoyager dans 7 mois, et bien, dans un café au Sri Lanka, on est tombé sur des gens qui étaient en train de bosser sur leur ordi. Moi, je ne sais pas comment, mais j'avais déjà entendu parler du digital nomadisme. Et donc, du coup, j'ai dit à Jeanne, et je dis, bah, là, je suis sûr que c'est les digital nomades dans le café.
Ouais,
Et
moi je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, j'avais jamais entendu ces termes-là. Enfin, moi dans ma tête c'était pour pouvoir, tu vois, travailler d'un café sur son ordi. C'était dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit ça doit être des profs de yoga qui préparent leurs cours en ligne, tu sais, enfin qui mettent leur planning de cours et tout
ouais.
ça. J'arrivais pas à me dire que c'était possible. Et pourtant j'avais déjà travaillé avec plein de freelances dans ma boîte, dans la boîte où j'étais en CDI puisque j'étais dans la publicité, donc on employait souvent, enfin on bossait souvent avec des freelances. Et j'ai pas du tout, je m'étais jamais dit ça pourrait être pour moi en fait. Et toi tu savais Ludo parce que tu dans ton CDI tu bossais vachement sur tout ce qui était futur du travail. Et donc en fait il y avait tous ces sujets qui commençaient un peu, c'était les prémices en France de parler de ces sujets-là, de travailler depuis la Thaïlande, de travailler depuis des destinations plutôt cool quoi. Et après quand on est rentré en France, bah évidemment, bah, on était en plein bad du retour de quand est-ce que c'est nos prochaines vacances, quand est-ce que c'est nos prochains week-ends. Et en fait très vite on s'est dit bah, ok, on va démissionner et on va partir on va partir en Asie. C'était ça le projet. Et en fait en recherchant des infos justement sur qu'est-ce que c'est que le digital nomadisme, comment on devient digital nomade, enfin toutes les questions qu'on se posait, qu'est-ce qu'on met dans sa valise, comment on choisit ses destinations parce qu'il faut qu'il y ait du wifi, etc. Toutes ces questions-là, en fait, en se les posant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de contenu français sur le sujet. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des contenus genre américains et qu'en France, bon, il y avait encore, tu vois, comme souvent, on les appelle encore les nomades numériques et il n'y avait pas vraiment de contenu, tu vois. Et en fait, bah, on s'est dit, bah, vas-y, en même temps que de partir, on va créer du contenu sur le sujet. Parce que tous les deux, déjà, on aimait beaucoup. Moi, je faisais beaucoup de photos, Ludo faisait beaucoup de vidéos. Et donc, en fait, c'est venu un peu naturellement de se dire, vas-y, on va créer du contenu français sur le sujet, quoi.
Vous avez commencé à créer du contenu avant de mener ce style de vie?
Non, c'était corrélé, donc c'est au
Ok,
moment où on
tout
est
en même
parti, on
temps.
a
On a fait
commencé
tout en même
à
temps.
tout faire, puis se lancer nos activités freelance en même temps.
Ouais.
Et
En
du
gros, on
coup,
a
ouais.
fait notre première vidéo quand on est parti pour la première fois et on n'avait pas encore nos premières missions clients et on a fait un peu les foufous, quoi.
C'est ce que j'allais vous dire, du coup, vous avez pas peur, vous êtes parti en détente, comment ça s'est passé?
Non, mais franchement, c'est trop drôle parce que maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais on était tarés quand même. Enfin, moi, quelqu'un de mon entourage me dirait ça, je dirais ça pas, quoi. Mais ouais, en fait, je crois qu'il y avait la folie. Il y avait une grosse envie de faire ça. Il y avait un ras-le-bol de nos CDI qui était énorme. Et il y avait ce qui nous a poussé après à se dire, OK, bah, on n'aura pas le choix en fait que de trouver des clients et que de faire nos premiers revenus en fait finalement en tant que freelance parce que on sera à l'autre bout du monde. On est parti dès le début 6 mois en Asie. Donc on n'avait pas le choix que de réussir en fait parce que sinon on savait que c'était le retour à la case départ et ça voulait dire nous on avait lâché notre appart à Paris, on n'avait plus rien, on n'avait plus d'affaires, on avait tout vendu. Enfin retourner à la case départ, ça voulait dire retourner chez nos parents et clairement c'était inconcevable.
Ouais, clairement. Et après, je pense qu'on en parlera sur la partie prérequis, mais on avait quand même deux, trois prérequis. Hein. On n'est pas
Ouais.
fou à ce point.
Un peu.
Et vous avez commencé avec des jobs freelance de quoi? Dans quoi vous vous êtes lancé pour démarrer en vous disant bah, je travaille pour moi? Genre, c'était quoi vos thématiques?
Ben, justement, moi, au tout début, j'avais pas forcément d'idée en quittant mon boulot de ce que j'allais faire. Et sachant que c'était dans la même thématique, hein, moi, j'étais consultant en transformation digitale. Donc, comme Jeanne l'a dit, dans mon boulot, on abordait énormément les sujets de futur de travail. Et donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est avoir mon ancienne boîte comme premier client. Donc,
OK.
première mission où j'aurais fait une étude justement sur le digital nomadisme, où en fait, pour leurs clients, eux, ils faisaient des présentations en disant ben, voilà ce que c'est le travail à distance, etc. Et je pense que ça a dû pas mal les aider avec le remote. Mais du coup, c'était la première mission que j'ai eue, c'était une étude commandée par mon ancien employeur.
Chose que tu ne fais plus du tout
Pas
actuellement,
du
mais
tout,
bon.
ouais. Mais c'était au moins
Les premières
sécuriser la
missions.
chose
Ouais.
en disant bah, y a une première mission.
Ouais, en gros, au début, on ne savait pas trop, moi encore moins, ce qu'on voulait faire. Moi, je sortais de 6 ans en agence de publicité où j'avais été chef de projet et clairement, je pense que si j'avais continué, j'aurais fini en burn-out. Et du coup, je savais que je ne voulais pas continuer à faire ça parce que j'étais carrément dégoûtée de ce métier et que je ne voyais même pas comment je pouvais le faire à distance. Surtout avec des décalages horaires un peu compliqués, quoi. Donc, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris quelques mois pour me renseigner avec mes proches, etc. Et voir dans quoi ils me voyaient, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qu'ils trouvaient que je faisais bien. ou voilà, parce que j'avais vraiment plus aucune idée de ce que je voulais faire. Et très vite, autour de moi, en fait, il y a eu un peu tout le temps les mêmes réponses. C'est que bah, j'adorais créer des contenus sur les réseaux sociaux. Et on m'a tout de suite dit, bah, tu pourrais peut-être essayer de vendre ça pour des marques ou pour des entrepreneurs, etc. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça, en me mettant sur Malte et en faisant des petites missions carrément sous-payées, mais où
Ouais.
j'aidais des petits créateurs à créer du contenu sur Instagram. Et puis après, avec le temps, ça s'est affiné. Mais moi, je fais toujours ce métier-là aujourd'hui.
Ok, mais en tout cas, je trouve que c'est un bel équilibre parce que à la fois il y a Ludo qui avait quand même un secure the bag en ayant son ancien employeur et puis toi qui te laisses la possibilité d'explorer, tu sautes le pas, mais en même temps, bah tu te dis, je peux le faire tout en réfléchissant en même temps, tu vois, sans être dans le rush et en m'imposant des choses. Donc je trouve que vous êtes un bel équilibre.
Ben merci.
C'est beau.
Et du coup, puisqu'on parle quand même de tout ce qui est sympa, du fait de voyager, etc., j'imagine qu'il y a quand même le revers de la médaille aussi. Pour vous, ça a été quoi ou c'est quoi les challenges dans le fait d'être digital nomade? Parce que je me doute bien que ce n'est pas les vacances toute l'année, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue à vous concrètement de ce côté-là.
Ben, il y a plusieurs challenges. Le premier, je pense que c'est pour tout freelance, ça va être de trouver ses premiers contrats, ses premiers clients. Donc ça a été notre gros challenge, évidemment, au début, mais on en a du coup déjà parlé. Après, moi, je dirais en deuxième truc pas cool, c'est en effet bah, tout ce que vont penser les autres.
Ouais.
Je pense qu'il faut tout de suite être loin du. Enfin, vraiment, pas se fier à ce que pensent les autres de toi. C'est vrai que tout le monde a tout le temps l'impression que tu es en vacances, en fait. Ils ont beau dire qu'ils comprennent. Enfin, parfois, il y a des mots qui sortent comme bonnes vacances ou des trucs comme ça qui sortent et tu te rends compte qu'en fait, finalement, ils n'ont pas tant que ça compris. Mais je sais que les freelances, c'est pareil. On leur dit toujours, hey, tu peux aller chercher mon fils à telle heure. Alors, c'est la même chose, en fait. Mais là, en plus, comme logiquement, tu es un peu sous les palmiers ou sous les
Ouais.
cocotiers, on a vraiment l'impression que tu bronzes toute l'année, quoi. Est-ce que tu as un autre challenge?
Ouais, je dirais pour la routine, après chacun voit comment il souhaite se créer une routine, mais je pense que le fait de changer régulièrement, ça peut avoir un impact pour beaucoup de personnes. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque fois de se recréer une routine, peu importe l'endroit où on est. Que ce soit moi, je vais essayer de trouver une salle de sport et d'avoir régulièrement une routine pour aller au sport le matin. Mais ça peut être quelque chose qui peut freiner. Et surtout, je pense que mentalement, si les gens se disent, en fait, j'y vais pour voyager ou découvrir des éléments d'un nouveau pays, bah, peut-être qu'ils peuvent être frustrés en se disant, je vais devoir travailler quand même. Alors que si tu y vas en te disant, bah, moi, je vais dans un endroit pour travailler et à la fois voyager, je pense que tu auras moins cette frustration. Donc, on dit souvent, si les gens décident et rêvent de voyager, vaut mieux qu'ils prennent 3-6 mois, qu'ils fassent un mini tour du monde plutôt que de tenter l'aventure digitale nomade parce que ça va les frustrer.
Ouais, au final, ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens pour moi parce que y a cette notion de, ben en fait, c'est pas des vacances à 100%. Moi, j'ai testé entre guillemets ce mode de vie-là puisque je suis partie un mois au Vietnam. C'était à mi-cheval entre à mi-cheval, à mi ouais, à cheval sur ouais, mi-cheval ou à cheval sur août et septembre 2019. J'ai fait un mois au Vietnam et en fait, le truc, c'est que j'arrivais pas à travailler. J'avais pas envie de travailler. Et en fait, c'est parce que, ben, j'étais pas dans le mood pour me dire, OK, je suis là pour bosser et pour profiter aussi. J'étais vraiment en mode découverte, donc je pense qu'il y a aussi ce travail-là à faire de son côté, quoi.
Ouais, je pense que c'est un gros un truc à savoir avant de partir. Et nous, on l'a expérimenté en faisant, c'est de se dire que, en effet, tu vois, là, tu es parti qu'un mois et comme c'était la, j'imagine, la première fois que tu y allais, tu avais très envie de découvrir tout ce que, enfin, ce pourquoi tu allais au Vietnam. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on reste minimum 3 mois. Si on peut rester plus, on est resté 6 mois dans des destinations et on n'avait quand même pas tout vu, en fait. Et il faut se dire que c'est OK de pas tout voir parce que tu pourras pas, à part si. Je pense que même tu peux pas, à part si en effet tu es en tour du monde, mais c'est très différent. Et ouais, ça crée ce genre de FOMO là, de te dire, ah, putain, j'ai pas vu ce bâtiment, j'ai pas vu enfin, ce monument, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et il faut se dire en fait dès le départ que tu pourras pas tout faire en fait. Avant de partir, il faut se dire que tu pourras pas tout faire ou alors qu'il faut rester vraiment plus longtemps. Et nous, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est vraiment pas de consommer les voyages entre guillemets, partir tous les mois, changer de destination et tout parce que ça te tue le cerveau en fait. Entre, on a tellement tous, je pense, de boulot, plus le fait de voyager, de devoir tout organiser, ça prend énormément d'énergie.
T'étais où au Vietnam en 2019?
Alors, j'ai été Ho Chi Minh la plupart du temps et j'ai fait Da Nang et Hanoï. Mais ces deux-là, je les ai fait quelques jours. Je suis vraiment restée beaucoup à Ho Chi Minh pour le coup.
Ça marche, t'as aimé?
J'ai beaucoup aimé Ho Chi Minh, mais je pense parce que ça a ce côté un peu western dans le sens où j'ai retrouvé, entre guillemets, beaucoup de la culture que je connais en ayant grandi dans l'Occident, alors qu'Hanoï, c'est très typique vietnamien, et où là, j'ai été un peu déboussolée, et je trouve, enfin, mon cerveau, il a été sollicité dans tous les coins, et j'ai trouvé ça un peu oppressant pour le coup.
Mais attends, nous en 2019, c'était à quelle période qu'on était au Vietnam, nous?
Ouais, en, je sais plus
Je
quel
pense que ça
mois.
doit être vers juin-juillet, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être
Et
qu'on
vous
s'est
étiez où?
croisés. On
On
était à
était
Hoi
à
An.
Hoi An et en fait, on a aussi fait Hanoï. Alors, on n'a pas fait le sud, on n'a pas fait Ho Chi Minh, mais on a fait Hanoï et on est allé jusque dans le nord, dans les rizières à Sapa. Et c'était ouf. C'était ouf.
C'est canon. J'adorerais y retourner, hein, mais effectivement, moi, je ne suis pas comme vous, j'ai pas de discipline et de rigueur. Je sais que je serai en mode vacances. Ça, c'est terrible. Bon, ce qui est très cool, c'est que ben, vous faites partie du bundle catching et que vous y avez mis votre programme, le Digital Nomad Club. Donc, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez partager avec mes auditeurs et moi les premières étapes, j'ai envie de dire, pour se lancer, pour les personnes qui sentent que c'est ce dont elles ont besoin et elles ont envie de tenter le coup. Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, est important à prendre en compte dès le début?
Qu'est-ce qui, selon nous, est à prendre en compte dès le début? Je pense que la réflexion, hein, que je t'ai évoquée tout à l'heure, si l'objectif en fait, que tu as envie de faire, si tu as envie de voyager, plutôt on va te conseiller de faire un tour du monde. Et si tu as envie de découvrir, mais quand même faire avancer ton activité, bien du coup de tenter cette expérience et la tenter peut-être de manière de court terme à un endroit qui n'est pas trop loin de chez toi. Comme ça, si jamais ça te plaît pas, au moins tu auras testé. Hein. Typiquement, s'il y a quelqu'un qui vit en région parisienne, tu peux tester 2 semaines d'aller à Biarritz et ça reviendra un petit peu au même, ou même aller au Portugal un petit peu plus loin. Mais au moins tu auras testé le fait de travailler dans un environnement différent et dans un lieu où généralement les gens sont en vacances pour voir comment tu t'adaptes à cette nouvelle façon de vivre.
C'est vrai que c'est une bonne idée de partir pas très loin de chez soi. Tu vois, pour moi, je sais pas pourquoi je pensais à partir loin à chaque fois. Mais en fait, oui, tu peux aller genre à Londres ou à Amsterdam ou je sais pas, et puis tester et voir ce que ça donne. Ouais. Et vous conseillez d'avoir déjà une idée du métier qu'on veut faire ou on peut voir ça en cours de route et une fois arrivé sur place?
Nous, quand même, on conseillerait toujours d'avoir déjà quand même au moins ton offre d'établi et l'idéal, c'est d'avoir déjà quelques premiers clients pour pas te retrouver. Imaginons que tu sois en Thaïlande et tu puisses pas payer ton billet retour, c'est un peu bête. Après, nous, clairement, on a fait les foufous en partant directement. Ça peut être une option si toi, tu as besoin d'un coup de pied aux fesses parce que tu sais que là, tu vas charbonner pour trouver tes clients. Mais c'est clairement pas la meilleure solution, hein, je préfère être honnête. Mais voilà, ce qu'on conseille, c'est déjà d'avoir en effet d'avoir le bon mindset. De savoir voilà, gérer, parce que les coups de mou, en fait, quand tu es freelance, il y a toujours des hauts et des bas, et pas mal de bas, et quand tu te retrouves tout seul, et encore plus en étant loin de chez toi, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est la première chose qu'on conseille à tout le monde de faire. La deuxième chose, ouais, c'est d'avoir son offre et son positionnement bien clair, et idéalement ses premiers clients pour pouvoir partir. Et si pas de premier client, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est d'avoir un peu d'économie de côté. Comme nous, si par exemple, tu as été en CDI avant, nous, c'est ce qu'on a fait pendant un an, tous les mois, on mettait des sous de côté. Après, on a vendu tous nos meubles. Enfin, voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, même si J'ai pas encore mes premiers clients ou j'en ai un ou deux et c'est pas assez pour vivre. Bah, j'ai quand même des sous de côté et puis j'ai pas peur. Je sais que je peux prendre un billet d'avion si j'ai besoin de rentrer. Voilà, ton matelas de sécurité de freelance, quoi, d'avoir ça. Je pense que c'est les premières choses les plus importantes.
Ouais, carrément, j'ai rien à ajouter, j'allais
Et puis
dire.
après, évidemment, sur la partie plus voyage, ça va être savoir comment choisir ses destinations, parce qu'en effet, tu ne peux pas bosser depuis n'importe où. Il y a plein d'endroits où Internet est pourri.
Ouais.
Ça, c'est le gros prérequis de tout digital nomade, de se dire, OK, il faut une destination où bah, tu auras du bon Internet, tu trouveras un logement adapté, tu trouveras peut-être des espaces où bosser, c'est-à-dire des coworking, des cafés. Et puis peut-être d'autres potes à travers le monde pour pas se retrouver tout seul aussi, parce que c'est aussi un point important.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous conseillez de choisir des endroits où il y a beaucoup finalement de digital nomades? Je prends l'exemple de Bali parce que c'est le plus connu. Est-ce que vous recommandez ce type d'endroit où potentiellement tu as plus de chances de pas être seul, quoi?
Ben pour quelqu'un qui part tout seul et qui a besoin qui aime pas se retrouver tout seul, ben c'est clair qu'on recommandera toujours d'aller dans les spot pour digital nomade, c'est-à-dire Bali, la Thaïlande, Lisbonne, enfin des endroits où tu es sûr de ne pas te retrouver seul. Nous, ça nous a vachement aidé. On a commencé par Bali et en fait, justement, on était vraiment des bébés freelance, on n'y connaissait rien. On avait fait quelques conférences à Paris, mais enfin voilà, on n'y connaissait quasiment rien. Et en fait, le fait de se retrouver entouré de freelance, de digital nomade qui avait un peu de bouteilles, et ben en fait ça nous a permis d'aller deux fois plus vite, de trouver nos premiers clients, de répondre à tous les problèmes qu'on avait en quelques, voilà, tu bois un café avec un autre freelance qui a peut-être 2, 3 ans de plus que toi dans ce métier-là, ben en fait il sera quasiment forcément passé par tes interrogations, tes blocages, etc. Donc pour moi, c'est hyper important. Et après, ça dépend en effet de ton caractère. Il y a des gens qui aiment bien être tout seuls, perdus dans la montagne. Bah, si c'est ça, va te perdre dans la montagne, tu vois. Mais voilà, ça dépend de comment tu voyages.
Et au-delà de juste rencontrer des gens, s'il y a des spots entre guillemets de digital nomade, c'est pas que, enfin, c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de monde, c'est que souvent c'est plus facile dans ces endroits de l'être, soit pour le coût du logement, soit pour les infrastructures. Tu sais que à Bali, il y a énormément de cafés, de coworking pour avoir internet, etc. Et je pense que ça, c'est un critère parce que tu peux techniquement, si tu veux, te retrouver dans la campagne, mais en fait, ça va ajouter de la complexité au fait que tu dois bosser au quotidien, alors que si la partie travail est organisée et simple, en fait, tu vas plus kiffer à ta partie voyage.
Ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ça fait combien de temps que vous avez créé le Digital Nomad Club aujourd'hui?
Ça fait un peu plus d'un an là, actuellement.
Ok, ah oui, donc ça fait ok, vous êtes resté longtemps, longtemps. Une grande majorité, en tout cas, de votre vie de digital nomade, freelance.
Oui, exactement. Ben, en fait, l'idée, c'était de pouvoir documenter un peu notre parcours. Et tant qu'on n'avait pas atteint un certain niveau, on avait du mal en fait à se dire qu'on allait l'apprendre à d'autres, même si on avait une autre petite formation avant qui a évolué un peu au Digital Nomad Club. Mais c'était ça vraiment l'idée de mettre tout notre jus de cerveau et de savoir, avec toute l'expérience qu'on avait acquis, comment bien retranscrire tout ça pour aider un maximum de personnes.
Ok, et du coup, comment c'est organisé? Parce que comme c'est dans le bundle, je sais qu'il y en a qui vont avoir envie d'en savoir plus. Comment vous avez pensé, bah, qu'est-ce que vous proposez dedans?
En fait, du coup, il y a deux grands volets. Il y a un premier volet qui va être plus sur la partie business, on va dire bah, comment créer son offre, comment trouver des clients, comment prospecter à distance, comment faire des appels de vente à distance, etc. Et après, il y aura toute une autre partie qui sera plus liée à la partie digital nomadisme avec l'organisation. Je ne sais pas si tu veux rajouter des
Ouais, toute
éléments.
l'organisation, qu'est-ce que je dois faire avant de partir, qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise, comment je m'organise pour être productif. En fait, l'idée, c'est de répondre à toutes les questions que tu peux te poser avant de partir et de te permettre de vivre, enfin de partir sereinement et de vivre sereinement de ton activité de freelance pour juste kiffer ta vie de digital nomade et pas te poser 6 000 questions, quoi.
Par exemple, un point important, c'est comment négocier son logement pour avoir jusqu'à 50% de réduction sur un logement, parce que tu ne vas pas payer un prix de touriste si tu veux que tu restes longtemps, etc. Il y a des manières d'aborder tout ça, et c'est tout ce qu'on a inclus dans la formation.
Oui, c'est vrai que c'est smart. Moi, là, comme ça, j'aurais booké un truc pour genre 3 mois, quoi. J'aurais pas pensé à cet aspect-là, effectivement. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens expérimentés comme vous qui sont capables de nous montrer un peu le chemin. Mais Jeanne, Ludo, merci beaucoup pour cet échange et d'avoir pris le temps de parler un peu de votre domaine et de la formation que vous avez mise dans le bundle. De toute façon, c'est dans les notes de cet épisode pour les gens qui ont envie d'en savoir plus et d'aller creuser tout ça. Et puis, je mettrai également le lien de votre chaîne YouTube et de votre compte Insta pour qu'on puisse continuer à vous suivre. Merci beaucoup.
Merci, merci à toi.
Avec plaisir. Et nous voilà à la fin de cette conversation avec Jeanne et Ludovic. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le digital nomadisme est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que cet épisode vous aura donné l'impulsion. En tout cas, si vous émettez de l'intérêt pour ce style de vie, autant aller creuser et profitez-en pour aller découvrir leur intervention dans l'expérience catching. Encore une fois, c'est gratuit et les replays sont disponibles jusqu'au 24 février. Donc vous aurez la possibilité de revenir dessus et de les revoir si vous ne pouvez pas être là en temps et en heure. En tout cas, si vous avez envie de découvrir l'excellent travail qu'ils font sur les réseaux sociaux, vous retrouverez leur compte Instagram dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.